autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver chers amis auditeurs avec Hugo Violas à la réalisation pour nous interroger sur une toute autre manière d'être et d'habiter le monde. En nous glissant dans la peau d'un arbre, entre l'écorce et le tronc, dans la profondeur de ses racines et jusque dans l'intimité de ses feuilles, histoire de mieux comprendre de quel bois sont faits les hêtres, les chênes, les séquoias ou les baobabs, à l'ombre desquels le vivant, tout le vivant s'abrite et se développe. Mais comment vivent ces géants immobiles qui, à notre échelle humaine, semblent quasiment immortels? De quoi se nourrissent-ils? Qu'échangent-ils entre eux et avec les autres? Comment se reproduisent-ils? Quel est le secret de leur éternité végétale? Comment percer le mystère des arbres, ces autres êtres vivants, si majestueux, si monumentaux, mais aussi si sensibles et paradoxalement si souples qu'ils sont perpétuellement capables de s'adapter au monde qui les entoure? Voilà ce que nous avions cherché à comprendre avec notre invitée, la chercheuse en biologie végétale Catherine Laine, le 25 mai dernier. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises autour de la question « Comment se glisser dans la peau d'un arbre ?» Et si on commençait par en dessiner des contours? « Dessine-moi un arbre », c'est ce que j'avais demandé au spécialiste mondial des arbres et de la canopée des forêts tropicales, Francis Allais, qui a préfacé l'ouvrage de Catherine Laine « Dans la peau d'un arbre ».
Pas très compliqué, un tronc de cône en bois qui représente le tronc. Le tronc, c'est l'élément fondamental de l'arbre. Donc je commence par ça, un tronc de cône en bois. Au-dessus, il y a des branches et des feuilles qui forment comme un hémisphère. Et en dessous, il y a un autre hémisphère qui est fait de racines et qui est beaucoup plus grand que celui que vous voyez.
Oui, oui. Et c'est fondamental ce qui se passe en dessous, évidemment.
Ah ben, pas question d'arbre sans racines.
Bonjour Catherine Laine.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour « Nous glisser dans la peau d'un arbre ». C'est le titre de votre dernier ouvrage à la fois scientifique et fabuleux, paru aux éditions Belin. C'est une bien jolie manie que vous avez, Catherine Laine, de vous mettre dans la peau de ces autres êtres végétaux. Vous nous aviez déjà emballé avec « Dans la peau d'une plante » il y a quelques années. Voilà que donc la chercheuse en biologie végétale que vous êtes, enseignante-chercheuse à l'université de Clermont-Auvergne à Clermont-Ferrand, en s'attaquant cette fois à ces monuments majestueux, à ces géants immobiles que sont les arbres qui n'existent pas sans leurs racines, nous rappelait Francis Allais. Ces arbres qui nous fascinent et pour cause. Alors pourquoi et comment avez-vous décidé de vous glisser cette fois-ci dans la peau d'un arbre?
Alors effectivement, je m'étais glissée dans la peau d'une plante et les arbres sont des plantes. Donc j'avais déjà parlé un petit peu des arbres dans le premier livre et j'ai voulu effectivement leur consacrer un ouvrage à eux seuls. Parce que ces arbres fascinent. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur les arbres, qui paraissent sur les arbres. Et je voulais apporter ma pierre à l'édifice, ou mon cerne de bois à l'arbre, si j'ose dire, pour montrer, faire un petit peu le tour de ce qu'on sait sur les arbres en termes de science. C'est-à-dire que ce livre-là, c'est un livre de vulgarisation, bien sûr. J'essaye de mettre les connaissances scientifiques à la portée de tous. Mais il est basé sur les savoirs que l'on a, les savoirs établis et les savoirs en construction dans le monde des arbres.
Il est scientifique. Il y a des photos et des illustrations magnifiques. Ils sont d'ailleurs de votre fait, Catherine Laine. Donc vous
oui,
êtes botaniste, photographe.
Plupart, oui.
Vous ne les dessinez pas comme Francis Allais, mais vous les photographiez.
Je les photographie depuis longtemps. Et effectivement, j'aime bien cette entrée par l'image qui est parfois plus facile que par le texte.
Et vous dites que c'est vrai qu'il y a énormément d'ouvrages. On parle beaucoup des arbres en ce moment, jusqu'à dire des choses qui sont un peu limites. Et là, au fond, quand on lit ce livre qui est une sorte de somme, très agréable à feuilleter, on découvre qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter finalement. Ce qu'on sait ou les savoirs en construction sont déjà fantastiques et sont déjà fascinants. D'autant que vous vous mettez dans la peau d'un arbre, mais vous n'abusez pas des anthropomorphismes et vous n'allez pas du côté des élucubrations.
Voilà, il y en a un petit peu parce que c'est vrai que c'est amusant de comparer les arbres à l'homme ou de faire des comparaisons. Hein, et parfois, ça aide à mieux comprendre. Donc l'anthropomorphisme bien dosé, c'est un très bel outil pour faire comprendre les choses.
Tout est une question d'équilibre, finalement, pour comprendre l'arbre, cet autre. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment une autre manière radicalement différente d'être vivant et d'habiter le monde. C'est ça aussi, peut-être, qui nous fascine.
Oui, et c'est vrai que c'est important, ça. C'est-à-dire de contempler ces arbres, d'essayer de les comprendre et de comprendre cette autre forme de vie qui n'a pas les mêmes problèmes que nous. Hein. Un arbre a des problèmes d'arbre. Et parfois, on m'interroge sur l'intelligence des arbres. L'intelligence, d'abord, on en parlera peut-être, cette difficulté de définir ce qu'est l'intelligence. Mais entre autres, on dit que c'est résoudre des problèmes. Très bien. Mais donc là, il faut comprendre aussi quels sont les problèmes de l'arbre. Et
voir s'il est capable de les résoudre. Pour lui-même.
Pour ses problèmes d'arbre.
Pour ses problèmes d'arbre. Comme nous le sommes peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, pour nos problèmes humains. Mais ça, voilà, Dom, mais ça, c'est une autre question. Vous avez, alors notamment en tant que chercheuse, beaucoup travaillé et étudié la manière dont les arbres se dressent, tiennent debout. C'est dans votre laboratoire, votre équipe, qui a découvert en 2013 ce qu'on appelle désormais la proprioception des arbres, le fait que, comme nous, enfin comme les vivants, ils tiennent debout, ils savent se redresser s'ils ne poussent pas droit.
Alors, voilà, donc dans ce laboratoire, on étudie les réponses, enfin la façon dont les arbres perçoivent leur environnement et comment ils répondent à ces perceptions. Donc on étudie ce qu'on appelle la sensibilité des arbres.
Le mot sensibilité.
Bien sûr, la sensibilité en biologie, c'est le fait de percevoir un facteur de l'environnement et de répondre de manière adaptée. Donc les bactéries sont sensibles, elles font pareil. Tout le vivant est sensible. Donc on étudie, nous, la sensibilité des arbres et en particulier la sensibilité aux facteurs mécaniques. Dans les facteurs mécaniques, il y a le vent, mais il y a aussi la gravité. Donc comment un arbre perçoit qu'il est incliné? Comment il répond à cette perception en se redressant à la verticale par sa croissance et en se rectifiant. La rectification, c'est-à-dire le fait de redevenir parfaitement rectiligne, droit. Et cette capacité à se rectifier passe par la perception des courbures, et c'est ce que nous avons montré. Et cette capacité à se redresser, c'est la proprioception, c'est comparable à la nôtre. Et quand on dit l'arbre fait comme l'homme, moi j'aurais plutôt tendance à dire que l'homme fait comme l'arbre. Parce qu'en termes d'évolution, l'invention de l'arbre précède de plusieurs centaines de millions d'années l'invention de l'homme.
Et notre planète, c'est peut-être d'abord aussi la planète des arbres.
Voilà, on pourrait commencer par ça, effectivement. En tout cas, c'est sûrement la planète du vivant, des êtres unicellulaires. Et ensuite, l'arbre apparaît bien plus, comment dire, dans le passé, il y a bien plus longtemps que nous.
Et il vit bien plus longtemps que nous. Ça aussi, ça nous fascine, ça fait partie des questions ouvertes et qui sont fascinantes vraiment quand on se glisse dans la peau d'un arbre. C'est celle de leur longévité. Pour nous, hein, à notre échelle d'humain, on a l'impression qu'ils sont immortels.
Voilà,
on pense aux séquoias, on pense aux chênes.
Tout à fait, ils fascinent parce qu'effectivement, certaines essences peuvent vivre plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Et que par rapport à notre vie d'homme, ou atteindre 100 ans, c'est déjà extraordinaire. Oui, ça paraît incroyable.
Alors, comment se construit un arbre? Pourquoi il y a une croissance? Alors, moi, j'ai envie de dire infinie, mais je sais que le terme scientifique dit plutôt une croissance indéfinie.
Oui, c'est le mot de biologie aussi.
C'est ça, une croissance indéfinie. Alors, avant de vous laisser répondre, Catherine, je propose d'écouter l'éclairage d'un autre chercheur en écologie végétale que vous connaissez bien et qui est sur la même longueur d'onde que vous par rapport aux arbres, quand il cherche à penser comme un arbre. C'est Jacques Tassin qui faisait ici même la grande différence entre nos vies végétales et animales, même si les plus adaptés ne sont pas toujours ce que l'on croit. On écoute Jacques Tassin.
Autant les animaux que nous sommes sont circonscrits par finalement un plan défini qui se réalise y compris pendant notre embryogenèse, où nous sommes même retournés sur nous-mêmes. Donc nous sommes vraiment centrés sur nous-mêmes, condamnés à l'être sur nous-mêmes par notre développement. Les arbres, eux, les plantes, n'ont pas de développement embryonnaire et finalement ne cessent de s'ouvrir, suivent un autre chemin de réalisation, de croissance, qui est une ouverture. Nous, nous refermons sur nous-mêmes, malheureusement, fort malheureusement. Les plantes, et donc les arbres, enfin les très belles figures des plantes que sont les arbres, ne cessent de s'ouvrir et de croître indéfiniment, puisque à l'extrémité de leurs bourgeons se trouvent des massifs embryonnaires, qu'on appelle massifs méristématiques, qui sont des sortes de fontaines de jouvence qui, elles, ne vieillissent jamais. Et chaque printemps, quand on fait référence à nos propres contrées, ben finalement, l'arbre retrouve cette forme d'insolente jeunesse qui est toujours là et qui donne aussi cette particularité à l'arbre d'avoir un air vieux chez des très vieux arbres, mais finalement d'avoir toujours cette jeunesse.
Les arbres auraient-ils le secret de la longévité?
Alors, oui,
voire de l'immortalité.
De l'immortalité. Alors, l'immortalité, ça serait ne jamais mourir. Donc, bien sûr que non. Un arbre meurt, bien sûr. Et c'est la définition même de la vie. La vie ne se définit pas sans la mort. Donc, par contre, un arbre, effectivement, c'est un être qui se développe toute sa vie, jusqu'à sa mort. C'est-à-dire qu'un très vieil arbre, comme le disait Jacques à l'instant, un très vieil arbre est fait à la fois de cellules qui ont plusieurs siècles, plusieurs millénaires dans son bois, des cellules qui sont mortes, mais qui sont toujours présentes et qui ont leur utilité, leur fonction de soutien. Et puis, il a des cellules qui viennent de naître dans ces fameux méristèmes qui se trouvent dans les bourgeons ou dans les pointes racinaires ou juste sous l'écorce, dans le cambium, qui permet la fabrication
entre autres de bois. C'est-à-dire qu'à toutes les extrémités, à l'intérieur du tronc, il y a sortes de fontaines de jours.
C'est ça. En fait, ce sont des cellules souches qui se divisent pendant toute la vie de l'arbre, avec chez nous, pour nos arbres tempérés, des arrêts dus à l'hiver. Hein, donc, il y a une vie un peu rythmée par la mauvaise saison qu'est l'hiver.
Mais qui arrivent donc à survivre à l'hiver, il y a ça aussi. Hein.
C'est ça, et c'est une des raisons de leur longévité, c'est qu'ils sont capables de résister à cette mauvaise saison, d'attendre, de rentrer en dormance, donc de rentrer dans le sommeil pour laisser passer l'hiver. Alors, un arbre en hiver, il ne fait pas que dormir, il lutte aussi contre le froid, contre le gel. Et cette capacité de renaître au printemps, donc ces massifs de cellules dont on parle, reprennent vie, ces cellules recommencent à se diviser, produisent de nouvelles cellules à nouveau, qui s'ajoutent à toutes celles qui ont déjà été fabriquées. Donc, non seulement le développement est indéfini, il ne s'arrête jamais, mais en plus, il est additif. Additif parce que c'est
ça
ce que
s'ajoute.
Je dis. Ça s'ajoute. Les bourgeons font des additions. Donc chaque année, le bourgeon terminal de chaque branche va former une nouvelle branche, une nouvelle portion de branche qui s'ajoute aux portions de branches précédentes.
Vous dites un arbre meurt évidemment puisqu'un arbre est vivant, mais on pourrait aussi dire, c'est pour ça que moi je dis croissance infinie, on a l'impression qu'au fond il pourrait presque croître.
Oui.
Indéfiniment.
Voilà, en fait, il va mourir, si j'ose dire, victime de son ambition. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus grand, de plus en plus large, les branches de plus en plus lourdes. Donc, il va rencontrer des problèmes mécaniques, des problèmes de circulation de ses sèves. Ses défenses, parce qu'il est capable de se défendre contre les agresseurs, vont aussi diminuer avec le temps. Donc, il va un jour ou l'autre finir abattu par la tempête ou grignoté par les parasites ou la sécheresse.
Puisqu'on est dans les comparaisons, vous avez parlé de la sève. Est-ce qu'on peut comparer la sève avec notre sang, hein, puisque vous dites les analogies parfois peuvent aider à comprendre.
Voilà, donc c'est pas la sève, hein, Caroline, ce sont les sèves.
Ah,
parce
merci
qu'il y
de
en
corriger.
A deux. Voilà, il y a deux sèves qui circulent dans un arbre donc, et dans une plante en général. Et ces deux sèves, donc c'est d'abord la sève brute, c'est-à-dire de l'eau minérale, qui entre par les racines, puisée par les racines dans le sol, et qui monte jusqu'aux feuilles. Donc ça, c'est la première voie de circulation, et ça passe par le bois.
C'est pour ça que vous dites que l'arbre boit par ses pieds,
oui,
c'est ça.
Voilà. et cette montée de cette eau dans l'arbre est permise par un moteur que sont les feuilles, qui évaporent de l'eau au soleil, elles évaporent donc et elles créent donc un appel d'eau dans les branches, jusque dans le tronc, jusqu'aux racines. Et donc toute cette sève brute monte aspirée par les feuilles. Et l'autre circulation, c'est la sève élaborée. Élaborée, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle est élaborée par les feuilles, qui, encore une fois, donc elles aussi, elles sont le moteur aussi de la circulation de cette sève sucrée, très riche, beaucoup plus riche en sucre que l'autre. Et cette sève, elle va circuler globalement des feuilles jusqu'aux racines. Donc, elle est plutôt descendante. Donc, on a deux circulations. Une circulation ascendante d'eau minérale, une circulation descendante d'eau sucrée, de grenadine, si vous voulez.
Voilà là, je comprends très bien.
Qui est sympathique.
Voilà.
Et donc, c'est difficile de comparer au sang, parce que d'abord, chez nous, le sang circule dans un circuit fermé, avec une pompe, qui est le cœur. Là, les deux sèves, c'est un circuit finalement ouvert. En tout cas, la montée de la sève brute, c'est ouvert parce qu'il y a une porte de sortie. Ce sont les feuilles qui perdent leur vapeur d'eau. Et il n'y a pas de pompe. Donc, il n'y a pas de cœur dans un arbre. Et pourtant, ça circule. Alors, ça circule, donc aspiré par les feuilles pour l'eau, des racines vers le haut. Et ça circule poussé par les feuilles du haut vers le bas pour la sève élaborée.
Il n'y a pas de cœur dans un arbre. Et pourtant, un arbre, sa vie, on vient de le comprendre, d'eau fraîche et d'air pur, hein, c'est vraiment ça.
C'est comme toutes les plantes, là aussi, et tous les êtres verts de la planète qui sont capables de fabriquer de toutes pièces de la matière organique, alors que nous, animaux, nous ne sommes capables que de prendre la matière organique déjà faite, déjà fabriquée, par ces êtres verts ou par la vache qui a mangé l'herbe, et de la modifier, d'en faire autre chose. Nous, nous transformons la matière organique pour fabriquer notre propre corps, avoir de l'énergie. Un arbre, ça fabrique de la matière organique à partir de rien, à partir de matière minérale, c'est-à-dire le dioxyde de carbone de l'air et l'eau du sol. C'est-à-dire par la photosynthèse.
C'est ça. Donc finalement, l'arbre, enfin les végétaux en général, ne dépendent pas, enfin dépendent des autres, mais pas absolument pour se nourrir, ne mangent pas les autres, ne se nourrissent pas des autres, mais fabriquent leur propre nourriture, on peut le dire comme ça?
Oui, là, globalement, c'est... on peut le dire comme ça, c'est-à-dire qu'un arbre fabrique sa propre nourriture. Il va quand même avoir des interactions avec tous les êtres qui l'entourent, et en particulier les champignons du sol, ces champignons qui vont aussi, donc ils vont l'aider à boire, par les pieds, et qui vont aussi l'aider à puiser aussi de la matière organique déjà présente dans le sol.
On va y revenir hein, sur ces symbioses et sur ces interdépendances entre champignons, et puis aussi, pas seulement les champignons, hein, tous les nombres d'organismes micro et pas si micro que ça, qui vivent avec, autour et grâce à l'âme. Mais j'aimerais bien qu'on s'arrête encore sur ces secrets de longévité des arbres à travers... Alors on a la radio, c'est pas très simple, mais vous m'avez fait découvrir ce sculpteur italien qui s'appelle Giuseppe Pennone, Catherine, et qui illustre parfaitement ce côté fascinant d'un arbre à la fois vieux et jeune, ou toujours jeune, même quand il est très vieux.
C'est ça. Donc Giuseppe Pennone est un sculpteur italien qui me fascine. Il utilise beaucoup les arbres, le bois, les troncs. Et en 1999, au moment de la grande tempête qui a mis tant d'arbres par terre chez nous, il a demandé à récupérer le tronc d'un cèdre de Versailles, pas très loin d'ici. Et ce tronc, il l'a creusé, donc il a fait une fenêtre dans le tronc et il a enlevé petit à petit, cerne de bois après cerne de bois, il a enlevé ces cernes, donc il a remonté le temps de l'arbre, parce qu'il faut juste se rappeler qu'un arbre pousse par l'extérieur, juste sous son écorce, et qu'il rajoute chaque année un cerne de bois supplémentaire qui coiffe tous les autres à l'intérieur de son tronc. Donc lui a remonté ses cernes, a remonté le temps jusqu'à retrouver l'arbre adolescent, le jeune arbre qui se trouve toujours au cœur du vieil arbre, de n'importe quel vieil arbre.
C'est ça.
Voilà. Donc ça, je trouve ça assez beau parce que c'est une démarche tout à fait scientifique. En remontant ses cernes de bois, il remonte le temps et il retrouve l'arbre jeune qui est là toujours au creux de l'arbre âgé. Et c'est vrai pour tous les arbres.
Je vous invite hein, d'ailleurs, amis auditeurs, auditrices et internautes, à aller voir sur internet Giuseppe Pennone. C'est donc l'arbre de vie ou mémoire d'arbre. Et vous verrez ce jeune arbre à l'intérieur.
On voit même ses branches.
Mais oui, c'est absolument extraordinaire. Autour de la question comment se glisser dans la peau d'un arbre, jeune et vieux à la fois, vous nous avez aussi indiqué non seulement quoi regarder comme œuvre d'art, mais quelle musique écouter auprès de nos arbres. Catherine Laine est dans votre playlist musicale Sous la canopée. Nous, on a choisi l'arbre, tout simplement, de Debout sur le zinc, à écouter sans modération à l'ombre de la radio mondiale.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Je suis la plantée au milieu du désert, les pieds comme attachés, les bras qui fendent l'air, dois-je avouer ce que je cache. Je suis l'arbre planté au milieu du désert, le regard embué et la rage sanguinaire. Après moi, il n'y a que du sable. Et ce long silence, long silence, après toi. Mon serment, écoute ma prière. Je suis si creux dedans et j'ai tant de colère. Je ne sais plus d'où je viens. Je cherche mon cœur, je cherche ma faiblesse. Mon écorce est un leurre, j'ai la gorge si sèche. Je suis comme nu sous la mitraille.
l'arbre version debout sur le zinc et sur RFI. Merci Catherine Laine pour ce joli choix musical autour de la question comment se glisser dans la peau d'un arbre. C'est réussi, aussi réussi que votre ouvrage, franchement, auquel nous avons emprunté le titre de cette émission Dans la peau d'un arbre, paru aux éditions Belin, dans lequel on découvre avec vos photographies à l'appui eh bien, toute la majesté, la beauté, parce qu'on n'insiste pas tellement là-dessus, mais pourtant la beauté de l'arbre, on le sait bien. Hein, oui. C'est ça qui nous touche aussi.
C'est ça qui, c'est de la première chose qui fascine, c'est voir un arbre se mettre au pied, lever le nez, et voir la projection verticale de son tronc, l'étalement de son haut-pied, oui, c'est fascinant.
C'est fascinant, il y a de quoi nous faire rêver à nos auditeurs d'ailleurs. De Pointe-Noire, en République du Congo, nous le dit lui-même, que lui aussi, quand il se met près d'un arbre et qu'il l'écoute, il sent des choses, ce que nous sentons tous, ça nous renvoie à nous-mêmes. Et puis un arbre, ce qu'on découvre aussi, un arbre, ça n'est jamais seul. Là, je reprends l'expression d'un autre biologiste végétal que vous connaissez également, Marc-André Sellos du Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste des champignons et des symbioses végétales. Il a lui aussi une question pour vous, on l'écoute.
Alors d'abord, je salue Catherine, que je connais bien et dont j'apprécie beaucoup les livres, en particulier le dernier. Et Catherine, moi je travaille sur des champignons qui s'associent aux racines des arbres et qui en fait sont dans la peau des racines, eux, pour le coup. Alors j'aimerais que tu nous dises comment tu vois cette relation qu'il y a entre ces champignons et ces arbres. Et notamment, il y a un truc qui me fascine, moi, c'est qu'on arrive à un tissage délicat de cellules de champignons mélangées à des cellules de racines qui forment un organe mixte et complexe. Et ben, j'aimerais que tu nous racontes comment ils se mettent dans la peau d'une racine, ces champignons.
Alors comment ces champignons se mettent-ils dans la peau d'un arbre ou bio des racines d'un arbre?
Oui, merci Marc-André. Moi aussi j'apprécie beaucoup ce que fait Marc-André. Et depuis longtemps, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, lui et moi. Donc, il a raison de dire que le champignon se met dans la peau d'une racine. Et j'ai beaucoup aimé son mot de dire que les cellules se tissent entre elles. Et c'est exactement ça. Donc, un arbre vit en association avec des champignons du sol au niveau de ses racines. Ça s'appelle, enfin, les organes qu'ils forment, tous les deux, l'arbre et le champignon, ça s'appelle une mycorhize. Mycorhize, myco c'est les champignons à la racine grecque et rhize c'est la racine. Donc mycorhize, ce sont des organes chimères.
Ça c'est chimères fou. Chimères parce qu'ils sont ni arbres ni champignons et ils sont les deux à la fois.
Voilà, ils sont les deux à la fois exactement. Et le tissage de cellules qu'évoque Marc-André, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on imagine la racine est faite de cellules végétales et le champignon entre à l'intérieur de cette racine et vient épouser les contours de ces cellules végétales, se répandre entre les cellules de la racine, coller les unes aux autres. C'est très intime hein, comme contact. Mmh. Et ce réseau de filaments de champignons qui se répand dans la racine, c'est là, en fait, que vont avoir lieu les échanges entre l'arbre et le champignon.
Et c'est des échanges gagnant-gagnant, exactement. Comme on dit aujourd'hui.
C'est ce que vraiment la définition même d'un échange. Un échange, c'est « je te donne, tu me donnes ». Et donc, le champignon et l'arbre pratiquent cet échange, cet échange bilatéral.
Qu'est-ce que donne le champignon et qu'est-ce que donne l'arbre en retour?
Alors, l'arbre, qui est le seul à pouvoir fabriquer cette matière organique par sa photosynthèse, va donc donner au champignon des sucres tout faits, de la matière organique toute faite.
Cette fameuse sève dont on parlait.
Voilà, la sève élaborée qui va aller jusqu'au champignon. Et c'est pas rien, hein, puisque ça peut monter jusqu'à 30%, donc un tiers de la production de l'arbre, de sa photosynthèse, et pour son champignon, ses champignons mycorhiziens, pour ses amis mycorhiziens. Donc ça, c'est quand même énorme.
Ah oui, c'est énorme.
Donc ça, c'est la majorité de ce que donne l'arbre, ce sont des sucres. Et les champignons, eux, vont puiser dans le sol l'eau et les éléments minéraux, et même quelques petits éléments organiques pour l'arbre. Donc, le champignon aider l'arbre à se nourrir par les pieds. Parce que ce champignon, lui, il va non seulement vivre en intimité dans la racine, hein, on l'a dit, mais il va aussi, à l'extérieur de la racine, se répandre dans le sol, partout. Il y a des filaments de champignons, des dizaines de kilomètres de filaments de champignons qui se répandent dans le sol et qui vont aller explorer le sol pour l'arbre.
C'est extraordinaire et ça veut dire aussi qu'un arbre, on pense à un arbre, c'est majestueux. Il y a déjà, Francis, elle le disait dès le début, autant de sous-terre, autant d'invisibles que de visibles. Mais ça fait vivre, c'est tout un écosystème, ça fait vivre les champignons,
Mais pas seulement.
Pas seulement
les micro-organismes,
oui, il y a
énormément, et puis les insectes. Et puis
voilà, autour des racines, il y a énormément de micro-organismes, beaucoup de bactéries. Il y a aussi des animaux, des vers, des arthropodes, etc. Donc il y a une, ça grouille de vie le sol. Le nombre de bactéries dans un centimètre cube de sol est absolument faramineux. Donc et ces bactéries, elles sont utiles à l'arbre également. Il y a des bactéries amies là-dedans qui vont aussi avoir pour rôle, par exemple, de défendre les racines contre des attaques de pathogènes. Parce que ces bactéries-là, elles vont produire des antibiotiques, par exemple. Des choses qui vont repousser ces pathogènes. Donc, un arbre ne vit jamais seul. Il accueille au sein de ses tissus d'autres êtres, comme on vient d'évoquer les champignons au niveau de ses mycorhizes. Il y a aussi des champignons partout dans ses feuilles. Il y a tout un monde de micro-organismes à l'intérieur même de l'arbre. Et il n'y a pas que des méchants, il n'y a pas que des pathogènes, il y a aussi des organismes amis.
C'est vraiment une symbiose, un échange. Et d'ailleurs, parfois, l'arbre, si immobile que ça, voyage grâce à tous ces petits animaux et finalement, il sème.
Alors, c'est ça. Donc après, l'arbre, la caractéristique, c'est quand même que c'est un être fixé au sol par ses racines et que, bien sûr, il ne peut pas prendre ses jambes à son cou et fuir le danger ou changer d'horizon, partir en vacances. Donc, par contre, il peut faire voyager sa descendance. Donc, il va effectivement produire par sa sexualité des graines qu'il va ensuite larguer dans le grand monde.
La sexualité des arbres. Alors vous appelez ça, c'est quand même très très joli, Catherinelle, pour dire à quel point il y a à la fois de l'humour, mais toujours avec la justesse, les amours arborescentes. Alors qu'est-ce que c'est ? Comment vivent c'est quoi la sexualité, la vie amoureuse des arbres ?
Voilà, alors la sexualité des arbres, j'ai souvent tendance à répondre, c'est la nôtre, hein, c'est comme nous. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire de des petits, il faut des cellules sexuelles. Donc des cellules sexuelles mâles, qu'on appelle des spermatozoïdes, et des cellules sexuelles femelles, qu'on appelle chez les plantes des zoosphères. Et il faut qu'une cellule sexuelle mâle rencontre une cellule sexuelle femelle pour fusionner, c'est la fécondation, et fabriquer une cellule œuf qui va, en se divisant, fabriquer le jeune arbre, d'accord, dans la graine.
Alors, ça se passe dans la graine.
Alors, tout ça, ça se passe dans la fleur.
C'est ça.
Ou dans le cône, si c'est un conifère. Donc dans la fleur, si c'est un feuillu, dans le cône, si c'est un conifère. Dans le cône femelle. Chez les conifères, il y a des cônes mâles et des cônes femelles. Les cellules sexuelles mâles, les spermatozoïdes, sont fabriquées dans les étamines de la fleur ou à l'intérieur des cônes mâles du conifère. Et les cellules sexuelles femelles se trouvent dans les pistils de ces fleurs ou dans les cônes femelles du conifère. Ça va, vous me suivez ?
Oui, oui.
La difficulté, c'est la rencontre. Hein, parce que nous, animaux, eh bien,
on bouge. Se déplace.
L'animal mâle va rencontrer l'animal femelle. Alors, chez les arbres ne bougent pas. Et souvent, d'ailleurs, les arbres sont bisexués. Ils ont les deux sexes, mâle et femelle. Ils portent à la fois soit des fleurs bisexuées, enfin hermaphrodites, soit des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées, mais sur le même arbre. Mais très souvent, le sexe mâle de l'arbre ne peut pas féconder le sexe femelle
du
même arbre.
Il y a des barrières génétiques,
pas d'inceste chez les arbres, parce que la consanguinité, c'est pas très bon non plus chez les arbres. Donc, dans la grande majorité, il y a des barrières génétiques qui empêchent cela. Ça veut dire que les cellules sexuelles mâles, elles doivent se balader pour aller de l'endroit où elles sont fabriquées, les étamines d'un arbre, vers les pistils d'un autre arbre de la même espèce. Et là, donc, leur transporteur, c'est le pollen. Parce qu'on dit souvent que le pollen est la semence mâle de l'arbre, c'est faux. Le pollen transporte les cellules sexuelles mâles. La semence mâle, elle est à l'intérieur du pollen.
Donc c'est vraiment pollen, encore c'est qu'un taxi. C'est ça, d'échange et de collaboration.
Oui, enfin, disons que le pollen, c'est le taxi, voilà. Donc, c'est un petit massif de très peu de cellules, mais qui transporte à l'intérieur les cellules sexuelles mâles. Et ce taxi va être pris en charge par un vecteur, parce que là encore, le pollen ne peut pas se déplacer tout seul. Et donc, le vecteur mobile qui va transporter le taxi, si j'ose dire.
Le
chauffeur du taxi, ça sera soit le vent, soit les insectes, beaucoup sous nos contrées tempérées. Dans les pays tropicaux, on peut aussi avoir des oiseaux ou des mammifères comme les chauves-souris, etc., qui peuvent transporter le pollen des arbres.
Voilà pour la sexualité des arbres. J'ai envie de citer le philosophe antique Théophraste, qui était d'ailleurs aussi botaniste. Il avait une jolie formule.
On dit que c'est le père de la botanique.
Ah, c'est le père de la botanique. Oui. Il avait cette jolie formule. Il disait que les plantes en général, les arbres en particulier, n'ont pas d'idées arrêtées. Je trouve ça très intéressant. Ça inspire un autre philosophe. philosophes autour de la question comment se glisser dans la peau d'un arbre et que peuvent-ils nous apprendre. Je propose précisément l'éclairage d'un philosophe, cette fois-ci tout à fait contemporain, Emmanuel Coccia, qui lui aussi est également botaniste, auteur entre autres d'une petite métaphysique des plantes, mais aussi des métamorphoses. Emmanuel Coccia est aussi évidemment un grand amoureux des arbres. On l'écoute.
Ce que Théophraste disait, que c'est un des faits les plus incroyables de la vie végétale, c'est-à-dire la capacité à la fois de produire de l'indéterminé d'un point de vue cellulaire, c'est-à-dire de garder une espèce de strate des cellules souches qui peuvent aller dans une direction ou de l'autre, donc peuvent produire des fleurs, des feuilles en fonction des besoins et de la situation de l'environnement, mais qui est une adaptabilité, non pas spirituelle comme dans les cas des lames, une adaptabilité somatique, anatomique, donc de changer leur corps, de sculpter leur corps en fonction de ce qui se passe autour d'eux. Donc c'est une invention des formes perpétuelles et aussi une attention au monde qui est beaucoup plus radicale de celle qu'on peut se poser dans un homme, qui est évidemment une capacité d'adaptation, mais qui n'arrive pas à modifier son propre corps à la situation du monde ambiant. Alors que dans les cas de plantes, c'est le cas aussi parce que ce sont des êtres qui ne cessent jamais de s'accroître. En fait, tout être animal à un moment
arrête de grandir, attend
sa maturité, et donc commence à se reproduire. Dans les cas de plantes, il n'y a pas de distinction entre reproduction et croissance, ce qui donc donne une vie qui est perpétuellement dans la façonnage de soi, de fait. Une plante, c'est une vie qui est constamment en train de façonner son propre corps. C'est une vie qui est entièrement le design de soi-même, en fait.
Jolie réflexion du philosophe Emmanuel Coccia. Un arbre, une plante est constamment en train de se façonner, de se designer elle-même, ce qu'on est totalement incapable de faire. Les arbres si costauds sont donc plus souples, et plus libres que nous, même s'ils sont immobiles, bizarrement.
Tout à fait. Paradoxalement. En fait, ils sont plastiques. Plastiques parce qu'ils peuvent effectivement reprogrammer leur silhouette, leur croissance en réponse à des facteurs de l'environnement. Prenez un conifère qui sera étêté par la tempête, dont la pointe sera abîmée, eh bien, il va être capable de reformer un nouveau tronc, une nouvelle flèche, en réveillant des bourgeons situé sous son écorce, et il va redonner une nouvelle flèche. Il va repousser et retrouver cette verticale. Cette plasticité, elle est en lien, comme le disait le philosophe, elle est en lien avec cette capacité qu'ont les cellules végétales, même différenciées. Alors différenciées, ça veut dire elles étaient cellules souches, elles se sont divisées, et puis elles ont acquis des différences. Elles se sont transformées en cellules de feuilles, en cellules en cellules de moelle, en cellules de branches, etc. Et donc elles sont différenciées, elles sont donc adultes, elles ne se divisent plus quand elles sont différenciées. Elles restent vivantes, elles remplissent leurs fonctions, mais en cas de problème, elles sont capables de revenir en arrière, de faire reset, si j'ose dire. C'est-à-dire, tout d'un coup, sous l'influence de différents facteurs environnementaux et hormonaux à l'intérieur, elles vont retrouver la capacité de se diviser et redevenir embryonnaires. Et ce faisant, elles vont reproduire des méristèmes. Juste exemple. Par exemple, vous coupez un arbre, vous coupez un marronnier, il y a la souche. La souche reste vivante et elle va reproduire des rejets. Elle va donner des rejets et ces rejets apparaissent alors soit parce qu'il y a déjà des bourgeons sous l'écorce qui peuvent se réveiller, mais en général, elles apparaissent parce qu'il y a des processus de retour en arrière de cellules différenciées, ce qu'on appelle de la dédifférenciation. Et elles vont donc retrouver la capacité de division et redonner un nouvel être, un nouveau tronc. Et ça s'appelle la totipotence. La totipotence.
C'est pas l'omnipotence, c'est la totipotence.
La totipotence.
Qui peut revenir en arrière.
C'est encore plus fort.
C'est une sorte de voyage dans le temps qui doit quand même inspirer grandement les chercheurs, parce qu'au fond, quand on s'intéresse aux arbres, c'est complètement fascinant. Effectivement, ils peuvent revenir en arrière.
Ils peuvent se reconstruire complètement.
Ils peuvent se reconstruire.
Et donc, en cas d'accident de la vie, ils peuvent renaître complètement de leur ruine, si j'ose dire. Il y a aussi, au cours du développement, des processus. Par exemple, je pense à la descente de cime d'un arbre. Donc, on a un arbre dont le houppier, le sommet des branches commence à se dessécher. Et on se dit, bon, ben, celui-là, il est en train de mourir. Il faut l'abattre, il va mourir. Surtout pas, parce que s'il a subi ce dessèchement de ses branches en haut, c'est peut-être pas l'âge. C'est peut-être parce qu'il y a eu des problèmes de sécheresse, par exemple. Il a perdu quelques branches qui se dessèchent. Mais il va, tous les bourgeons qu'il a, il a une espèce de réserve de bourgeons sous l'écorce, vont se réveiller et il va fabriquer de nouvelles branches un peu plus bas. Il va reconstruire une autre cime un peu plus bas et redevenir un arbre bien sûr plus petit, mais avec une seconde vie.
Ça a de quoi nous inspirer, en tout cas nous donner envie de pouvoir nous adapter comme ça, surtout par les temps qui courent autour de la question comment se glisser dans la peau d'un arbre. On continue de s'interroger donc sur cette mystérieuse et secrète vie des arbres. En votre compagnie, Catherine Haine, à l'écoute d'un musicien qui est aussi chanteur et marionnettiste, Thomas Sidibé, on a eu envie de vous faire découvrir ce morceau autour d'un arbre. Jusqu'au ciel, autour d'un arbre, dans l'univers de Thomas Sidibé sur RFI. C'est pour vous.
Oh, très joli, merci du cadeau.
Empruntez donc, autour de la question, empruntez au titre de votre ouvrage, comment se glisser dans la peau d'un arbre, ouvrage stupéfiant, qui nous invite à une nouvelle question soulevée par un biologiste et sociologue des sciences qui était récemment notre invité, Benoît Grison, on l'écoute.
Bonjour Catherine Laine. J'ai une question à vous poser. Peut-on parler de perception chez les plantes, sachant que parler de perception n'implique pas forcément du tout un quelconque niveau de conscience.
Votre réponse, Catherine Haine.
Merci pour cette très jolie question et qui touche justement le sujet de nos recherches à Clermont. Bien sûr, on peut parler de perception. En biologie, encore une fois, c'est un terme qui désigne la capacité d'une cellule à sentir, à reconnaître un signal, à le décoder et à répondre à ce signal de manière adaptée. Le signal peut être un signal physique, ou ça peut être un signal chimique, une molécule. Le signal physique, ça peut être une onde électromagnétique, comme la lumière. Ça peut être tactile, le vent, exactement.
Un
facteur mécanique, bien sûr. Et cette perception, par exemple, pour sentir le vent, comment un arbre perçoit le vent, il le perçoit, et ça aussi, ça a été montré au laboratoire à Clermont, par la déformation de ces cellules. Il perçoit la déformation de ces cellules vivantes et donc l'étirement ou la compression de ces cellules dans la tige qui se fléchit. Vous imaginez la flexion, et dans la flexion, vous imaginez bien qu'il y a un côté qui se comprime et un autre côté qui s'étire. Voilà ce que l'arbre ressent. Il ressent l'étirement ou la compression de ses cellules, et ça passe par des étirements ou des compressions de ses membranes, c'est-à-dire la petite pellicule vivante qui emballe chaque cellule, et ça va passer par des structures qu'on appelle des canaux qui vont s'ouvrir sous l'extension de la membrane, un petit peu comme le diaphragme d'un appareil photo, vous voyez, s'ouvre. C'est exactement le même principe. Ces petits canaux, en s'ouvrant, vont permettre des échanges de particules chargées, des ions, de la cellule vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule, et donc la création de petits courants électriques locaux. Donc, ces courants électriques, par contre, on ne sait pas bien ce qu'ils deviennent. C'est-à-dire...
Et qui est-ce qui... Enfin, c'est un peu compliqué, ma question. Il n'y a pas quelqu'un qui ressent... Enfin, je veux dire, voilà, oui, c'est là où il y a nos limites. Il n'y a pas quelqu'un, un arbre, qui ressent et qui sait qu'il ressent quelque chose. Mais par contre, il ressent, véritablement.
Il perçoit.
Il perçoit.
C'est vraiment le mot.
Le mot est percevoir.
Et d'ailleurs, dans la perception, c'était bien le sens de la question, c'est dans la perception, la perception s'accompagne de la réponse. Et c'est les deux, la perception plus la réponse, qui fait la sensibilité.
Donc les arbres sont sensibles,
bien sûr,
on est bien d'accord,
sensibles,
ils comme, perçoivent. Et
comme tout le vivant, Caroline, c'est-à-dire une bactérie aussi est sensible, un ver de terre c'est sensible, un navet et une betterave c'est aussi sensible qu'un arbre, ou un homme, c'est pareil.
Mais ça ne crie pas « aïe », il n'y a pas quelqu'un derrière qui souffre. Alors, ou bien, est-ce qu'on ne le sait pas? Justement, oui, on en est où? Quel est l'état de l'art? Puisque c'est là-dessus que vous travaillez, c'est-à-dire pas sur des élucubrations. Mais oui,
voilà.
Bien sûr.
Donc, pour ce qui est de la sensibilité, on est bien, tout le monde est d'accord, tous les chercheurs sont d'accord, les chercheurs qui travaillent sur le végétal sont d'accord là-dessus.
Donc, les arbres, les végétaux, les plantes sont sensibles.
Toutes. Après, la question, c'est, il n'y a pas de cerveau. Ça aussi, on est tous d'accord. Il n'y a pas de cerveau dans un arbre, il n'y a pas de cerveau dans une plante. Et on pense qu'elles n'en ont pas besoin. C'est-à-dire que le problème, c'est l'intégration des signaux. Comment faire pour intégrer différentes informations et répondre de manière adaptée? Parce que nous, c'est le cerveau qui fait ça. On a un système central qui traite ces informations et les intègre. Chez les plantes, ben, on ne sait pas bien encore. En tout cas, ça se passe localement, à l'échelle du tissu, et ça fonctionne très bien. Donc, il n'y a donc pas besoin de cerveau, c'est ce que je veux dire.
C'est mais ça. Mais on peut être très réceptif et réagir comme il faut sans cerveau.
Absolument. Et avoir des mouvements tout à fait coordonnés. Un arbre a des mouvements. Un arbre bouge, ce sont des mouvements de croissance très lents. Mais c'est un arbre et se tient debout comme un tai chi, il maintient son équilibre. C'est exactement la même chose.
Sauf que nous, on ne le voit pas à notre échelle de temps, on ne le voit pas bouger.
Voilà,
mais au fond, ils ne sont pas si immobiles que ça, les arbres.
Du tout, ça bouge en permanence. Et d'ailleurs, une plante que vous filmez et on accélère le film très rapidement, il y en a plein Internet de ces vidéos, vous verrez, ça bouge. Et ça ne bouge pas seulement par le vent, ça bouge intrinsèquement.
Donc c'est vraiment, ça fait combien de temps qu'on comprend ça? Il y a un savoir qu'on a depuis très longtemps.
Eh bien, écoutez, moi je vais remonter à Charles Darwin. Mm-hmm. Charles Darwin, c'est vraiment le premier physiologiste végétal, parce que Charles Darwin, c'est pas seulement la théorie de l'évolution, c'est aussi un grand physiologiste végétal qui a travaillé sur la sensibilité des plantes à la lumière, la sensibilité des plantes à la gravité. Alors il mettait des plantes à l'horizontale, il les regardait se redresser, mm-hmm. la tige se courber vers la verticale, la racine se courber aussi vers la verticale, mais vers le
dans
bas,
l'autre sens.
Et la tige vers le haut. Donc voilà, ça remonte, Darwin, c'est 150 ans. Et donc, depuis 150 ans, les connaissances s'accumulent, bien sûr. Donc,
mais on a l'impression qu'il y a quand même une sorte d'explosion, un peu comme il y a quelques années, c'est la sentience chez les animaux. Enfin, voilà, tout ce qu'on on faisait peut-être semblant un peu d'ignorer chez les autres animaux.
Peut-être que ça n'avait pas atteint le grand public, effectivement, et qu'on a l'impression qu'on découvre actuellement que les plantes sont des êtres sensibles, mais on le sait depuis longtemps. Après, depuis 150 ans, on décrypte aussi quels sont les acteurs de cette sensibilité, quels sont les récepteurs de ces signaux, quelles sont les voies moléculaires qui permettent la traduction du message et l'enclenchement de la réponse, etc.
Oui, parce que ça communique entre eux. On a,
bien sûr,
y a les plantes et les arbres communiquent.
Enfin, alors, après, voilà.
Comment est-ce qu'on peut dire ça, justement?
Oui, là aussi, alors là, c'est vraiment ce que j'appelle typiquement un front de science. La communication des plantes entre elles ou des arbres entre eux.
Science en train de se faire, en train de se construire.
En train de se construire, on n'est pas sûr encore de tout. Et effectivement, quand on lit, il y a beaucoup d'articles ou d'ouvrages qui disent les plantes, les arbres se parlent, les arbres échangent des messages, un arbre attaqué va envoyer des messages d'alerte à ses voisins, etc. Moi, je reste à l'échelle scientifique, et je regarde les publications, je lis, et je vois que tout le monde n'est pas encore d'accord dans la communauté scientifique. Donc on avance. Et par exemple, rien que pour la communication, donc c'est-à-dire, on sait parfaitement qu'une plante attaquée par une chenille, par exemple, va émettre dans l'atmosphère des composés chimiques, des composés volatiles. Ces composés volatiles peuvent être perçus par la plante voisine, qui va se mettre en état d'alerte, et commencer à produire des défenses contre cette chenille qui ne l'a pas encore grignotée. Donc, quand on voit ça, on dit, eh bien oui, la première qui est attaquée a prévenu sa voisine du problème. Alors déjà, interrogeons-nous, est-ce que c'est intéressant pour une plante de prévenir sa voisine qu'elle est attaquée, alors que sa voisine est quand même une concurrente pour elle, concurrente en termes de compétition pour les ressources du milieu. Donc déjà, on peut se poser un peu la question. Et puis, il y a d'autres chercheurs qui ont montré la distance parcourue par les composés organiques volatiles, elle est très courte en fait. En plein champ, dans certaines publications, on a montré que 50 cm au-delà de la plante grignotée, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que finalement, ce n'est pas transporté très très loin. En tout cas, c'est perdu dans le vent, dans l'air. Et si c'est très court, cette distance parcourue, ces chercheurs-là ont émis l'hypothèse qu'en fait, ces substances, elles ne sont pas destinées du tout à la voisine. Elles sont destinées à la plante elle-même, qui, attaquée sur une feuille, finalement émet dans l'air des substances qui vont prévenir toutes ces autres feuilles de l'attaque et mettre la plante entière en état de défense maximale.
Est-ce que c'est une autodéfense ?
Oui,
est-ce que
en fait, ça serait une communication partagée intra-plante qui pourrait et qui va beaucoup plus vite en émettant les composés dans l'air qu'en émettant le signal par les sèves. On voit, par contre, ces chercheurs-là ont montré aussi que ce signal aérien qui est très rapide est relayé dans les jours qui viennent, dans les heures qui suivent, par un signal interne hormonal. Donc finalement, la communication qu'on évoque, ça serait peut-être simplement pour la plante elle-même et ça déborde. Et finalement, les plantes voisines seraient comme des espionnes qui entendent des messages qui leur sont pas du tout destinés. Et qui en profitent.
Mais c'est magnifique aussi. C'est-à-dire qu'au fond,
c'est joli aussi.
Mais
oui, pourquoi pas.
Au fond, on n'a pas besoin d'inventer. Il suffit de poursuivre vos recherches et déjà rien que tout ça est totalement fascinant.
C'est ça. Le message là-dedans que je voudrais faire passer, c'est que attention aux interprétations. Il y a la première, les plantes communiquent entre elles, et la deuxième, c'est une communication pour la plante elle-même qui déborde. Voilà deux interprétations qui sont tout à fait valables.
Et qui n'enlève rien à la magie, à la magie que l'on peut découvrir en feuilletant votre ouvrage. Merci beaucoup, Catherine, on arrive à la fin de cette émission, d'avoir fait le voyage depuis Clermont-Ferrand pour être en direct avec nous, partager tous ces arbres et toutes ces photos d'arbres. Je rappelle le titre de cet ouvrage merveilleux et scientifique, les deux sont possibles, Dans la peau d'un arbre, très richement illustré, paru aux éditions Belin. C'est un vrai régal, je voulais qu'on se quitte avec un autre de vos choix musicaux, mais je pense qu'on n'aura même plus le temps.
Que dommage.
Oui, mais à une prochaine, on le passera la prochaine fois, on dit pas ce que c'est. Ah si, allez, c'était le Kwakwanza avec un chanteur français, mais on écoutera ça quand vous revenez. La prochaine
fois. Plaisir.
À bientôt, Catherine.
Merci, au revoir.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast, disponible sur toutes vos plateformes favorites et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, autour d'une des questions les plus vertigineuses que nous nous soyons posées cette année. Quel est l'âge de l'univers ? Piste de réponse cosmique et cosmologique du physicien Marc Lachaiseret, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci d'être à notre écoute. Surtout, restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du journal.